Bonjour, bonjour, ça galope déjà dans la musique. Bonjour et bienvenue pour Inkipit. Alors, je suis toujours entourée de mon duo savoureux, des voix dans les... Promenons-nous dans les voix, pardon, je voulais mettre les voix dans les bois, mais non. Promenons-nous dans les voix. Donc, il y a Prune, vélo, à côté de moi.
Bonjour Prune. Christine.
Et puis, bonjour Violaine.
Bonjour Christine.
Merci pour ce duo. Et ce duo qui m'accompagne va à la rencontre aujourd'hui de Marion Lely.
Bonjour.
D'une belle librairie dont le nom me plaît déjà tant. C'est un très bel incipit, puisque cette librairie s'appelle La Page d'accueil.
Bonjour, merci de me recevoir.
Bienvenue à vous, bienvenue à tous nos auditeurs. Et pour cet incipit que je cherche toujours à faire, vous vous souvenez, à faire rimer. Alors le troisième, je me disais, il pourrait rimer comme incipit et pépite. Et je déteste ce mot parce qu'en ce moment, il est à la mode dans tout et sur tous les réseaux sociaux. Tout le monde a trouvé la pépite. Ah, ça, c'est une pépite. Ah, voilà, la pépite. Non, incipit, c'est une pépite, mais peut-être aujourd'hui, de
au chocolat.
Miam, miam, miam.
Merci, Violaine, pour cette virgule chocolatée déjà. Notre première rubrique consiste à mettre en voix et en musique deux extraits. Je vais te demander, Prune, quel est le morceau que tu as choisi, du moins l'extrait littéraire que tu as choisi de nous lire. Et puis toi, Violaine, comment vas-tu l'accompagner ?
Alors, est-ce que déjà, tu me permets une petite digression, Christine ?
Digresse.
Ouais. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, chers complices, chers auditeurs, chères auditrices, que les livres qui parlent de nourriture sont des livres absolument réconfortants. Moi qui aime les histoires plutôt dures et plutôt tristes et qui en dévore plus qu'il n'est raisonnable pour ma santé mentale, j'ai parfois besoin d'une pause avec des choses plus légères. Et c'est dans les livres chérissant la cuisine que je trouve cette bouffée de bien-être. Aussi, aujourd'hui, j'aurais adoré pouvoir vous lire un extrait de La Cucina de Lily Prior. Malheureusement, ce livre, qui donne envie de manger et de faire l'amour, n'est malheureusement plus édité. Si vous le trouvez dans les rayons d'occasion, franchement, foncez, achetez-le et laissez-vous porter par les bonnes odeurs de la cuisine sicilienne. J'aurais également adoré partager avec vous un extrait de Ulysse et Cyrano. Mais la BD, bah, c'est pas très radiophonique. mais je voudrais dire quand même deux mots de ce roman graphique signé par Antoine Christeau, Stéphane Servin et Xavier Dorizon, qui a été édité par Casterman en juin dernier. Il raconte l'apprentissage du bonheur à travers la passion pour la gastronomie et il compte quelques recettes en fin de livre.
Redis-moi son titre.
Ulysse et Cyrano.
Très bien.
Bon, au final, j'ai choisi de vous lire un extrait du quatrième et dernier tome des Mémoires de la forêt. La saison des adieux, c'est le titre tout fraîchement sorti en librairie. Petite remise en contexte, les Mémoires de la forêt, écrites par Michael Brun-Arnaud et illustrées par Sanoé, constituent une sublime tétralogie éditée par Neuf, l'école des loisirs. Chaque tome retrace l'aventure d'un des membres de la famille Renard, libraire de père en fils et fin gourmet. Si le tome le plus délectable est assurément le deuxième, Les carnets de Cornelius Renard, le quatrième, La saison des adieux, donc, mais aussi lui à la bouche. En voici donc un extrait.
Mazette, 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 je ne sais plus où donner du bec. Il n'était pas dans l'habitude d'Oscarinois, la propriétaire d'un diamant sous l'oreiller, l'une des deux auberges de Grimpe-Étoile, de recevoir des convives juste avant l'heure du dîner en pleine saison du muguet. Elle, qui d'ordinaire préparait soigneusement l'accueil de ses hôtes, s'était retrouvée à 18h passées à accueillir une taupe rondouillarde à l'allure étrange qu'elle n'avait jamais rencontrée. « Ça, Mazette ! » Elle s'en serait souvenue, chargée et couverte comme elle était. N'écoutant que sa générosité et son sens de l'hospitalité, Oscarine s'était précipitée en cuisine pour préparer une théière d'infusion à la griotte et faire fondre des plaques de son chocolat maison au bain-marie. Les chocolats surprises étaient son dessert signature. Chaque visiteur qui avait pu le goûter s'en était extasié, au point de laisser un mot sur les pages de son livre d'or. Deviner ce qui reposait au fond du cœur de ses hôtes et en garnir l'intérieur de ses chocolats pour leur faire déguster, voilà ce qui faisait le succès de la spécialité d'Oscarine. Ce pouvait être une ganache de gingembre confit, un praliné aux cacahuètes rôties, une compotée de fleurs de violette ou des graines de sésame torréfiées. Par un hasard extraordinaire ou une intuition qui confinait à la magie, chacun se retrouvait toujours à déguster son chocolat préféré, sans jamais l'avoir réclamé.
C'est un incipit des papilles, c'est assurément cela. Violaine, quelle musique as-tu choisi pour accompagner ce délice ?
Alors, sous ce délice, il fallait absolument une musique délicieuse. Et donc, la musique que vous avez entendue, auditeurs et auditrices, c'est une rumba. Et cette rumba, elle roule des hanches. Et cette rumba, c'est la musique thématique du film La Grande Bouffe. Et elle a été composée par Philippe Sard. Alors, il me semblait quand même que c'était le rythme qui convenait à l'auberge de Grimpétoile.
Ah, c'est ça. Ça fait tellement musique de fond d'un établissement un peu chic.
C'est tout à fait ce que j'imaginais. Des grandes tentures, des petites vaisselles dorées.
De jolis lustres.
Oh, une lumière tamisée et des saveurs absolument divines. Voilà pourquoi cette rumba s'imposait.
Et moi, je pense au film où on pourrait aller jusqu'à tout dévorer, peut-être tout redonner.
Peut-être, mais peut-être pouvons-nous pour l'instant déguster.
Christine, qu'as-tu choisi, toi, pour cette émission ?
Comme toi, je me disais, oh là là, de toute façon, un livre, ça se savoure, c'est difficile à dire. Ça se malaxe, ça se mange, ça se dévore. Et j'ai pensé à plusieurs extraits que j'aurais eu envie de vous lire. Bien sûr, tout d'abord, j'ai pensé à la Madeleine de Proust. Et cette Madeleine qui fond avec à la fois le beurre et la subtilité, non pas de la violette de tout à l'heure, mais de la verveine. Quoique ce côté fleuri te ramène peut-être aussi, toi qui m'écoutes, dans l'enfance. Alors oui, il y avait la Madeleine de Proust. Et puis, il y avait surtout, et encore, Murakami. Parce que dans toutes les œuvres de Murakami, il y a des recettes. Et je pense particulièrement au roman 1Q84, avec ses milliers de tomes. Quelques tomes. Il y a beaucoup, beaucoup de recettes. Et par exemple, il y a des crevettes sautées avec les haricots que le héros dégraine. Avant de les faire flamber, de les faire mijoter dans le gingembre. Et toutes ces saveurs nous racontent son état d'âme. C'est assez étrange parce qu'il ne nous parle pas de lui, mais les crevettes semblent être lui ou devenir ce qu'il a dans sa tête. Mais non, ce n'est pas du tout ça que j'ai choisi.
Mais quelle idée avons-nous eue d'enregistrer à proximité de l'heure du midi ?
Nos estomacs gargouillent.
Et finalement, je suis retournée dans la jeunesse, dans ma jeunesse, dans la jeunesse de mes enfants, qui, ça y est, mes enfants ne sont plus jeunes. Ils sont d'autres enfants, des enfants d'avant. Et j'ai eu très envie de vous lire un extrait de Charlie et la chocolaterie. J'ai craqué. Alors, l'histoire, vous la connaissez encore. C'est Charlie Bucket. Il vit, c'est assez amusant, dans une espèce de mansarde, on va même presque dire un taudis, avec son papa, sa maman, et les deux couples de ses grands-parents, grands-parents paternels, grands-parents maternels, qui le choient, qui l'aiment, qui le bordent d'histoire et d'amour. Mais la vie est rude. La vie est rude. On a papa qui est prolo dans une usine de dentifrice où il remplit des tubes. Et Charlie qui n'a droit qu'un bâton de chocolat par an. Et pourtant, ils habitent cette petite famille tout près de l'usine de Willy Wonka, l'usine de chocolat qui le fait rêver. Mais Willy Wonka tient absolument à garder son secret sur la fabrication de ce chocolat qui est unique au monde. Pourtant, bien qu'il ait très peur de l'espionnage, il permet aux gourmands de gagner une entrée avec un ticket d'or glissé dans un chocolat. Les parents et grands-parents de Charlie lui offrent deux tickets, du moins deux chocolats, en espérant qu'il y ait un billet d'or. Et Charlie gagne le ticket d'or et le voilà dans la chocolaterie. La salle au chocolat. Très importante, ces salles, cria Monsieur Wonka. Il sortit de sa poche un trousseau de clés et en glissa une dans la serrure de la porte. Ceci est le centre nerveux de toute l'usine, le cœur même de l'affaire. Et comme elle est belle, j'attache beaucoup d'importance à la beauté de mes salles. Je ne tolère pas la laideur dans une usine. Et voilà, nous entrons. Mais soyez prudents, mes petits amis. Ne perdez pas la tête. Ne vous excitez pas trop. Gardez votre sang froid. Monsieur Wonka ouvrit la porte. Les 5 enfants et les 9 adultes entrèrent en se bousculant pour tomber en arrêt devant tant de merveilles. Oh, quel fascinant spectacle! À leurs pieds s'étendait une jolie vallée. De chaque côté, il y avait de verts pâturages et tout au fond coulait une grande rivière d'un brun profond et étincelant. Mais on voyait aussi une formidable cascade, une falaise abrupte par où les masses d'eau pleines de remous se précipitaient dans la rivière, formant un rideau compact, finissant en un tourbillon écumant et bouillonnant, plein de mousse et d'embrun. Au pied de la cascade, quel étonnant spectacle, d'énormes tuyaux de verre pendillaient par douzaines. Un bout trempant dans la rivière, l'autre accroché quelque part au plafond, très haut. Ils étaient vraiment impressionnants, ces tuyaux, extrêmement nombreux. Ils aspiraient l'eau trouble et brunâtre pour l'emporter Dieu sait où. Et comme ils étaient de verre, on pouvait voir le liquide monter et mousser à l'intérieur. Et le bruit bizarre et perpétuel que faisaient les tuyaux en l'aspirant se mêlait au tonnerre de la cascade. Des arbres et des arbustes pleins de grâce poussaient le long de la rivière. Des saules pleureurs, des aulnes rieurs, du rhododendron touffu à fleurs roses, rouges et mauves. Le gazon, lui, était étoilé de milliers de boutons d'or. « Voyez !» s'écria Monsieur Wonka en sautillant. De sa canne à pommeau d'or, il dessina la grande rivière brune. « Tout cela, c'est du chocolat. Chaque goutte de cette rivière est du chocolat fondu et du meilleur. Du chocolat de première qualité, du chocolat, rien que du chocolat, de quoi remplir toutes les baignoires du pays et aussi toutes les piscines. N'est-ce pas magnifique ?
Merci Christine. Je me demande si c'est l'approche des fêtes qui nous a donné envie de lire tous ces textes autour du chocolat.
C'est certain.
Mais il n'y a pas de saison, dites-moi qu'il n'y a pas de saison.
Oui, mais ça s'y prête particulièrement.
Violaine, un petit mot sur l'extrait que tu as choisi pour accompagner une partie du texte de Christine.
Avec grand plaisir. Alors, figurez-vous qu'on ne pouvait quand même pas passer à côté de l'extraordinaire musique composée par Danny Elfman pour le film de Tim Burton. Parce que les voix des Oompa Loompa, c'est quand même lui. Donc il fallait à tout prix que ce soit cette musique que nous entendions. Et quand on sait en plus que le cinéaste avait commandé une bande originale qui devait être d'un style rétro, pop, extravagant, dans le style Bombay ou Bollywood, eh bien, ma foi, on pouvait s'attendre à presque tout. Et c'est donc pas pour rien qu'elle fut nominée quand même 11 fois pour la meilleure bande originale de film durant l'année 2006. Donc, voilà, musique fameuse dans tous ses états.
Merci beaucoup. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, moi, je sais qu'il y a eu 120 000 litres de chocolat utilisés pour le film.
Oh, wow.
120 000 litres. Une piscine, quoi. On en parlait tout à l'heure.
On aurait dû aller sur le tournage.
Et une piscine, je pense plusieurs piscines à mon avis. Hein. Je ne suis pas très douée en maths, mais c'était olympique, vraiment. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, tous ces bonbons me mettent la bouche au stylo. Hein. Bon, chers complices, chers amis, auditeurs, auditrices, il est temps d'attraper un crayon, une feuille de papier pour notre jeu d'écriture mensuel. Thème de l'émission oblige, nous passons en cuisine, accompagné par le batteur Daniel Humer. Nous vous invitons aujourd'hui à écrire une recette de Noël, ou plus précisément à réinventer la recette de la dinde ou du chapon farci. Peu de contraintes pour cet exercice. Au regard du temps qui nous est imparti, 3 minutes, nous ferons fi de la liste des ingrédients et celle des ustensiles. Nous irons directement à la préparation en usant, cela va de soi, uniquement de verbes à l'infinitif. Éplucher, égoutter, tailler, mélanger, farcir, rôtir. Le choix est vaste. Nous assaisonnerons le tout à notre guise pour rendre cette recette piquante ou alléchante. Le petit plus, l'astuce ou le conseil des chefs que nous sommes. Prêt ? Feu ? À vos stylos et vos fourneaux,
à vos casseroles.
Quelle musique enlevée !
Magique la musique ! Waouh ! Merci Violaine, quel beau choix.
Mais de rien, il me semblait vraiment que Daniel Lumer et sa batterie de casserole étaient en droit d'être invités à notre émission. Alors c'est vrai que Prune m'avait formellement invitée à en jouer moi-même, mais je trouve que Daniel Lumer se débrouille quand même vraiment pas mal. Et je me suis dit, je vais lui laisser sa chance. En plus, il y avait le saxophoniste Dave Liebman avec lui. Donc voilà, c'était obligé.
Du sucre. Bon, en tout cas, j'espère que sur cette belle musique, la sauce a pris. Comme il se doit, hein. Évidemment. Alors, Christine, chère chef animatrice, Louis, cher marmiton du son, Violaine, chère reine des casseroles, et Marion, chère convive libraire, avez-vous réussi à nous mitonner un petit texte délectable ?
Eh bien, ma foi, Daniel Lumer était un peu court, mais on a fait tout ce qu'on a pu. Hein. J'ai l'impression qu'on a mis toute notre vitesse de stylo.
Recette, oui, délectable. Je crois même que Louis s'est un peu débiné sur cette affaire. Trop occupé avec ses manettes, son fourneau. Mm-hmm. Verdict, qui veut
Verdict
se lancer
qui se lance, qui se jette dans la marmite.
Voulez-vous que j'y aille ?
Allez, tu y vas.
S'il te plaît.
Tu y vas.
J'y vais, hein, mais je vous promets rien. Hein. C'est parti, un promesse de travers. Hein. Tirer la marmite du placard, assommer la dinde et la jeter dans l'huile bouillante. Oh. Admirer les plumes s'échapper du couvercle. Écouter la peau crépiter. Ajouter les marrons ou les champignons et les regarder danser autour de l'animal. Mettre la musique à fond et laisser la magie opérer le temps d'une chanson. Ou de plusieurs, dégustés, entourés d'une cour, ou plutôt d'une joyeuse basse-cour.
Waouh, joyeuse basse-cour, nous sommes là.
vous voyez, hein, j'ai un peu détourné la recette, mais c'est-à-dire que cette musique m'inspirait pas forcément quelque chose de délicieux, mais plutôt quelque chose d'énergique.
Une farce, tu l'as...
Je suis d'accord.
Ouais, tu l'as bien tournée, cette farce.
Violaine, veux-tu
Allez,
nous lire
Je me lance puisque j'ai eu le temps de finir ma phrase. Alors, voilà donc comment je vois les choses, moi aussi, sur cette musique. Prenez le chapon le plus vigoureux de votre cheptel. Demandez-lui s'il est d'accord pour quelques expériences culinaires. S'il est réticent, relâchez-le, c'est son droit le plus strict. S'il est d'accord, faites-lui bien savoir qu'il régalera vos convives et sera fêté comme il se doit. Une fois l'animal ramené à l'état de volaille, massez-le. Le massage posthume a des bienfaits dont on ignore encore beaucoup de choses. L'huile la plus fine sera privilégiée. Ensuite, un lit de sauge et autres aromates et un four des plus techniques devraient suffire à votre bonheur et au sien.
Oh, le chapon heureux.
Le chapon. On fait ce qu'on peut pour la cause animale dans une émission sur la cuisine, hein, ma foi.
Oui, c'est vrai que j'ai été un peu violente. Là, tu viens de ramener un petit peu de douceur.
Il semble même avoir choisi d'être le chapon de Noël. Est-ce que Marion, vous voulez nous lire votre recette savoureuse ?
On peut tenter quelque chose, mais alors vous allez très vite comprendre que je passe beaucoup plus de temps dans mes livres que dans les casseroles.
C'est très bien aussi.
Une dinde pour Noël, donc. Hein. Mm-hmm. L'imaginer d'abord, cette dinde. Il nous faudra la deviner, la rêver, la fantasmer peut-être. Parce que Noël, c'est ça, non ? Une féerie ? Mais l'heure tourne et il faut avancer. Avancer, la masser. La caresser,
tiens.
Lui parler, qui sait. Lui demander de quels légumes elle veut se faire accompagner, quelles épices, quelles herbes. Laissez-la s'exprimer et vous guider.
Oh, c'est un bel écho à Violette.
Oui, c'est ça. Je pense qu'on pourrait mélanger leurs deux extraits et là, on aurait vraiment un chapon ou une dinde heureuse.
Au bonheur des poulets. C'est le titre de notre prochain ouvrage.
Très bon. Un beau respect du vivant. Merci, mesdames. Christine, tu veux nous partager ta petite chose écrite ?
Moi, j'ai fait une petite entourloupe encore une fois.
Ah, mais t'aimes bien faire des entourloupes.
Moi, je n'ai pas entendu chapon, mais chapeau. Ah. Alors, voilà ce que ça fait. Prendre un beau chapeau, pas un bonnet mou, un beau chapeau. Avant de le mettre sur votre tête, le farcir de 250 grammes de rire clair. Y ajouter 7 gouttes de paillettes multicolores, laisser agir quelques instants. Puis, fouettez énergiquement avec toutes vos idées de cadeaux, de vœux, de blagues. Et quand cette émulsion est bien moussue, la retournez en un geste unique et léger sur votre tête ou celle de votre voisin.
Mais je veux ce bonnet.
Quelle belle manière de conclure ce petit exercice d'écriture. Amis auditeurs, auditrices, partagez-nous vos textes. Vous pouvez nous les envoyer à Inkipit, I-N-C-I-P-I-T, @campusgrenoble.org. Et nous les lirons à l'antenne le mois prochain. Pour cette troisième émission d'Inkipit, nous avons donc le plaisir d'accueillir Marion Lely, libraire à Visil. Donc depuis un tout petit peu plus d'un an, Marion tient la librairie au nom si prometteur, comme l'annonçait Christine tout à l'heure, la page d'accueil, rue Général de Gaulle. Véritable
ça
lieu...
aussi, ça promet.
Oui, ça promet. Véritable lieu de vie et de culture, cette librairie indépendante et généraliste ne manque pas d'idées pour vous donner le goût de la lecture. Pour cela, il n'y a qu'à jeter un coup d'œil à sa sélection de calendriers de l'Avent qui prennent la forme de BD, de manga, de tablettes de chocolat, de chapitres à découper et j'en passe. Mais c'est encore Marion qui va nous en parler le mieux de toutes ces surprises et de toutes les animations que peut proposer la page d'accueil. Donc Marion, nous invitons à piocher dans notre enveloppe le premier mot qui vous permettra de nous parler de votre amour des livres et de votre librairie.
5 petits mots okay. Dans ma page et dans mon enveloppe de craft. Parce que craft, ça sonne aussi. Hein.
Alors, ça craque.
Ça craque, ça craft.
Allez-y, Marie.
J'y vais.
Faites-nous
j'y vais
crafter.
De ma petite main innocente.
Inkipit, justement. Et j'en profite pour vous remercier parce que jusqu'à votre invitation, je pensais que Inkipit n'était lié qu'au mot, au premier mot, aux premières phrases d'un texte. Et grâce à vous, j'ai fait mes petites recherches et j'ai découvert qu'il s'agissait aussi des premières notes d'un morceau de musique. Et ça me parle beaucoup parce que j'aime beaucoup les liens entre les arts, entre les différents mondes culturels. Je suis cinéphile, j'adore la musique. La littérature, évidemment, s'inscrit dans tout ça. Et... voilà, ce mélange entre la littérature, la musique, ou avec, je parlais du cinéma ou d'autres choses, l'art vivant en général, c'est très important pour moi parce que tout se nourrit les uns des autres. C'est pas rare que j'aille voir un film au cinéma et que j'ai envie de lire la biographie de la personne qui était en scène. Là, par exemple, tout à l'heure, je vous ai choisi un extrait d'un livre de Philippe Delerme, dont le fils, Vincent Delerme, est musicien. Et je trouve que tout résonne, je trouve qu'il y a des liens entre tout. Et j'aime cette globalité dans les fictions, dans la culture, dans tout ça.
Quelle belle introduction pour nous présenter l'esprit de votre librairie. Mais alors, comment a-t-elle commencé cette aventure?
Alors, c'est vraiment une aventure pour le coup. Et c'est une aventure qui est arrivée assez tardivement dans ma vie professionnelle, puisque c'est une reconversion. Et je pense qu'elle n'aurait pas pu naître avant. Il m'a fallu du temps, il m'a fallu du chemin pour arriver à ce qui est devenu une évidence. Mais peut-être même 5 ans avant la création de cette librairie, elle n'existait même pas dans ma tête. Pas du tout. Donc j'ai été enseignante pendant plus de 20 ans et puis j'ai vécu dans plusieurs pays, j'ai été expatriée et l'année du Covid m'a obligée à m'impatrier, qui n'est pas encore un verbe dans le dictionnaire mais qui devrait et qui est donc l'inverse de s'expatrier. Et je me suis retrouvée donc dans cette petite ville de Visil. Pas par choix, ça a été un concours de circonstances. Et puis là, se sont croisés deux désirs. Alors, il y a eu la néo-visiloise qui était en manque de livres parce qu'on n'avait pas du tout d'accès à la lecture, à part la médiathèque, bien sûr.
Qui est une très belle médiathèque, soit dit en passant.
On a une superbe médiathèque, on fait beaucoup de choses ensemble et je les adore. Et elles le savent, hein, quand je suis revenue en France, je leur ai dit tous les jours, il y avait encore le confinement, etc. Et je leur disais, mais merci d'exister, vous me sauvez la vie. Donc, il y avait ce désir, en fait, de pouvoir accéder aux livres que la médiathèque n'avait pas forcément, d'ailleurs, et pour mes enfants aussi. Et puis, il y avait cet essoufflement professionnel qui devenait vraiment pesant. J'avais fait une demi-carrière dans l'enseignement. Il se trouve que j'avais encore une vingtaine d'années devant moi et j'étais essoufflée. Je quittais aussi des conditions de travail dans les lycées français de l'étranger où j'avais des classes à 18 élèves, j'avais vraiment des conditions assez exceptionnelles et surtout des élèves pour qui l'éducation avait un vrai sens. Et je me retrouve dans un petit collège où il faut presque justifier sa présence en face des élèves parce que pour eux, ça n'a pas de sens de venir à l'école, c'est juste obligatoire et c'est un dû. J'avais toujours cette envie de transmission, c'est pas quelque chose qui m'était passé, mais je voulais vraiment transmettre autrement. Et j'avais envie que les personnes en face de moi aient envie de recevoir cette transmission. Voilà. Et puis donc un jour, l'idée est née, l'idée d'ouvrir cette librairie qui me manquait en tant que consommatrice déjà. Et à partir de ce moment-là, quand le projet est né dans ma tête, il n'y a eu que des évidences. Je me suis comme fait une liste de cases à cocher, à me dire est-ce que ça correspond à tel besoin, ma vie familiale, etc., etc. Et ça cochait vraiment toutes les cases. Et ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement dans la pratique, parce que quand on prépare, on peut se dire oui, ça va répondre à mes envies, à mes attentes, mais la réalité peut être différente. Non seulement ça coche toutes les cases que j'attendais, que j'espérais, mais ça en a coché certaines que je n'avais même pas imaginées, que je n'avais même pas rêvées. C'est un bonheur avec un grand B. C'est incroyable.
Quelle belle introduction. On passe à un deuxième petit mot.
Mais j'en trouve plus.
Oh, l'enveloppe Kraft est trop profonde.
Sucré, salé. Ça alors. Deux saveurs complémentaires. Eh ben, ça pourrait ressembler à Elena et moi. Elena, qui est ma jeune employée, qui a démarré la librairie avec moi, que j'ai eu la chance de recruter donc, il y a un peu plus d'un an, qui est toute jeune, dont je pourrais être largement la maman. Elle a démarré, elle avait 21 ans. Et quand j'y pense, je me dis, à 21 ans, quelle maturité. Moi, à son âge, j'aurais été incapable de faire ce qu'elle fait. Et sucré-salé, parce qu'on va très bien ensemble. Mais en même temps, on a chacune nos saveurs. Donc, elle a ses spécialités, elle a les choses qu'elle aime, j'ai les miennes. Et on fonctionne très bien ensemble aussi, et séparément. Et c'est une sacrée chance que j'ai d'avoir trouvé ce partenaire, ce binôme. Parce qu'on passe quand même toutes nos journées ensemble. C'est pas évident quand même. Beaucoup de gens me disent que c'est difficile de recruter, on ne peut pas. Et bah, moi, j'ai eu cette chance-là, parmi plein d'autres.
Et quelles sont un peu, justement, vos spécialités à chacune ?
Elena, elle va avoir un gros pôle jeunesse, young adult, la romance, le manga. En général, quand il y a quelqu'un qui vient et qui s'intéresse au manga, je regarde Elena, je dis « je crois que tu vas y aller ». Alors évidemment, je peux faire sans elle, mais elle a lu vraiment beaucoup de choses et puis elle aime ça et ça l'anime. Et elle est aussi capable d'aller dans les autres rayons. Et moi, je vais être davantage sur la littérature. Donc là, la rentrée littéraire, c'est elle a lu certains livres, mais j'ai quand même beaucoup épluché les nouveaux romans. Et puis les essais, ça va être plutôt moi aussi. Voilà, on est capable chacune d'aller dans tous les rayons. Mais sa spécialité, ça va plutôt être sur la jeunesse. Par exemple, les Mémoires de la forêt, ça, c'est son rayon. Le young adult, voilà. Et puis moi, plutôt le côté littérature, essai.
Un troisième mot.
Friandise. Donc, ça rejoint la gourmandise, le thème de l'émission. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les friandises ? Bah, peut-être les friandises, ça va être ces petites choses dont on n'a pas besoin, parce que les friandises, on est d'accord que notre corps n'a pas besoin de ces petites choses, mais elles font du bien quand même. Et ces friandises, bah, pour ma librairie, ça va être la gratitude qu'expriment les gens au quotidien, parce que ce qui est nécessaire pour la librairie, c'est que ça tourne, que les gens viennent acheter des livres, etc. Mais avoir tous les jours ces petits bonbons que nous donnent nos clients à travers des remerciements, à travers des compliments, des retours qui viennent deux semaines plus tard en nous disant « Ah, vous avez conseillé ça à mon fils qui n'aime jamais lire. » Et là, il l'a dévoré, il veut le deuxième tome. Ça, ce sont des petits bonbons, ce sont des friandises, c'est des carreaux de chocolat, c'est un bonheur. Hier encore, j'ai reçu un email d'une maman qui vient d'Ardèche et qui était venue à Vizille pour le festival du film pour enfants organisé par le cinéma. Et elle était tombée amoureuse de la librairie, ses enfants avaient acheté des albums en lien avec, avec le cinéma, etc. Et de retour chez elle, deux semaines plus tard en Ardèche, elle nous a envoyé des photos de ses enfants avec les livres qu'ils avaient achetés à la librairie, tout fiers de nous montrer leur bibliothèque et leur chèvre naine, au passage. Et elle a pris le temps de nous écrire un long mail pour nous dire qu'elle avait été ravie de cette rencontre, de trouver ses livres, de, voilà, de partager tout ça. Et, voilà, ce sont mes petites friandises.
Alors moi je pense à d'autres friandises qui sont les à côté de la littérature.
Je pense notamment au chocolat
de poche,
au chocolat c'est de poche, voilà. Mais je pense aussi de manière plus large à tout le rayon papeterie qui est très complémentaire aussi de des livres.
Mais qu'est-ce que c'est qu'un chocolat de poche?
Eh ben je t'en remercie de poser la question. Le chocolat de poche, c'est une invention d'un jeune entrepreneur qui s'appelle Emmanuel, et j'ai oublié son nom de famille, qui a Hans. Et enfant, il avait l'habitude de cacher ses tablettes de chocolat pour que son frère ne lui pique pas. Il les cachait dans sa bibliothèque entre les livres. Et puis, son frère finissait par les trouver. Et donc, il a usé d'ingéniosité pour les camoufler le mieux possible et en mettant des couvertures de livres autour. Et puis, devenu adulte et toujours aussi gourmand et fan de chocolat, il a décidé d'inventer et de créer ce qu'il appelle le chocolat de poche. Ça ressemble à un livre de poche avec une très belle illustration qu'il a choisie.
C'est génial.
Un petit texte à l'intérieur, une citation et surtout, surtout, un chocolat de qualité.
Oh, on dirait Willy Wonka qui nous parle.
Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Et donc, il fait des associations. Ce n'est pas juste du chocolat. Alors déjà, c'est tout bio, c'est des produits entièrement bio. Chocolat noir essentiellement, il y en a quelques-uns qui sont au chocolat au lait, mais la plupart c'est 74% de chocolat noir. Et donc il les associe à des saveurs qu'il teste, qu'il essaye, qu'il recommence. Par exemple, ça va être au fenouil, à la coriandre, au chai, au curcuma. Il décline ça sous plein de formes différentes. Donc c'est un bel objet, c'est savoureux. Que dire de plus?
Et il y associe des mots, des extraits.
Il est comme Oscarine Roy, il tombe pile dans le...
C'est ça, donc il y a sur ce qui ressemble à une couverture de livre, sur la tablette de chocolat et l'emballage. Donc il y a une illustration, un tableau d'art, c'est magnifique. Alors ça peut être Van Gogh, ça peut être des choses connues, ou ça peut être tout autre chose. Il y en a une notamment qui est magnifique, celle qui est au pain d'épices, je crois. C'est un tableau qui a été peint par un enfant trisomique et c'est extraordinaire le rendu, ça colle tout à fait avec sa tablette. Et donc au-dessus il y a une petite phrase qui est en fait un extrait d'un texte plus long qu'on va retrouver à l'intérieur de la boîte.
Mais vraiment, quelle bonne idée.
Foncez.
Il suffit de foncer dans ses souvenirs d'enfance pour avoir de si belles idées.
Et ça fait une super idée cadeau.
J'adore.
On est invité à la dernière minute à l'improviste chez quelqu'un. On ne veut pas arriver les mains vides. Bah, ça peut être une bouteille de vin, mais ça peut être un chocolat de poche.
On doit avoir presque de la peine ou du mal à l'ouvrir, non?
Alors moi, je garde les boîtes. Parce que comme je suis une grande professionnelle, bien sûr, je les ai toutes goûtées. Je suis obligée.
Bien sûr. Il faut être pro.
Voilà, c'est ça. Donc je crois que je les ai vraiment toutes essayées pour le coup. Et je garde les boîtes parce que l'objet est super.
Donc tu as une collection de boîtes vides.
Ah, j'ai une sacrée collection. Ouais.
Allez, quatrième mot.
Page.
On aurait pu mettre ce mot au pluriel, ça ne s'entend pas à la radio,
mais là il est au singulier.
Celui que tu as est au singulier.
Page, il y a plein d'expressions avec page, être à la page, voilà. Et ça me fait penser au nom de la librairie, bien sûr. Qui au départ en fait est un pied de nez au site internet qui déclare avoir une page d'accueil alors qu'il n'y a aucun accueil, bien sûr. Et donc, j'avais choisi ce petit jeu de mots parce que j'avais ce sentiment, j'avais cette sensation que ma plus-value, la plus-value de cette librairie, elle allait vraiment être dans l'accueil et dans le lien. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas acheter des livres. Les gens, ils viennent pour nous voir, ils viennent pour discuter, pour échanger. C'est très fréquent, et je ne parle pas simplement avec Elena et moi, mais c'est très fréquent que des gens se retrouvent dans la librairie, qui est quand même assez spacieuse. On peut vraiment déambuler, il y a de la place, les rayons sont assez larges. Et donc, c'est pas rare que les gens se retrouvent. « Ah, bonjour, comment tu vas ?» Et puis, 20 minutes plus tard, ils sont encore là à discuter. C'est, donc, c'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie, c'est presque un tiers-lieu. Donc, voilà, la page, ça m'évoque évidemment ce nom qui s'est imposé comme ça et qui est devenu une réalité depuis que ça existe.
Donc il y a bien les pages au pluriel et l'accueil.
Et l'accueil. Ouais, tout à fait. Ouais.
Allez, on termine avec le cinquième mot. Uh-huh.
Goût. Le goût, ouais. Avoir le goût, c'est je crois, l'essence de tout. Avoir le goût pour tout, en fait. Goûter. Essayer. On n'est pas obligé d'aimer, on n'est pas obligé de tout apprécier. Mais tenter des choses, tenter des lectures, tenter des expériences, se lancer, oser.
Et est-ce que récemment, vous avez goûté un livre auquel vous n'auriez jamais imaginé et qui a été peut-être une agréable surprise ?
Alors, c'est rare que je démarre un livre en me disant « j'ai pas envie d'y aller ». Et d'ailleurs, ça m'arrive aussi de laisser tomber assez vite si je vois que c'est pas quelque chose vers lequel j'ai envie d'aller. Non, une surprise, tiens, oui. Cet été, j'ai reçu ce qu'on appelle des SP, des services presse. C'est-à-dire qu'avant la rentrée littéraire, on a demandé à nos représentants de nous envoyer des titres de certains livres qu'on pressent être des livres qui vont sortir un petit peu du lot. Et donc, j'en ai reçu beaucoup au mois de juillet. En vue de la rentrée littéraire qui allait démarrer mi-août, mais je les avais demandés déjà 2 mois avant, peut-être au mois de mai. Et puis quand j'en ai reçu certains, je me suis dit pourquoi j'avais demandé ça en fait, c'était quoi l'idée derrière? Et un de ceux-là, c'est un livre qui s'appelle La vie meilleure. Je l'ai reçu au mois de juillet. Je regarde la quatrième de couvre parce que je me souvenais plus de qui il s'agissait. L'auteur Étienne Kern, c'est son deuxième roman, mais je n'avais pas lu le premier, donc c'est pas comme si j'étais attirée par une plume que je connaissais déjà. Et donc je regarde un petit peu la quatrième de couverture et il est question de quelque chose que je comprends comme étant la biographie d'Émile Coué. Émile Coué, c'est ce pharmacien du début du XXe siècle qui a donné son nom à la fameuse méthode, la méthode Coué, oui. Vous savez. Et sur le coup, quand j'ai reçu ce service presse, je ne l'ai pas ouvert. Je me suis dit, je ne vais pas forcément vers les biographies. Pourquoi Émile Coué ? Et donc, je l'ai un peu laissé de côté. Puis le hasard a fait que ça m'est revenu, cette histoire de méthode Coué. Et c'est probablement un de mes plus gros coups de cœur là, de la rentrée. Parce qu'on croit qu'on va lire une biographie. En fait, on se retrouve avec un roman d'amour, avec une histoire complètement... unique, voilà, et une écriture sublime, voilà. Donc, j'en profite pour vous recommander d'aller découvrir
La vie meilleure d'Étienne Kern. Eh bien, partageons un autre coup de cœur, celui que vous nous avez apporté.
Oui, vous nous avez apporté de la lecture, plus que de la lecture, ouais. De la voix aussi.
Ouais. Alors, tout à l'heure, c'est Christine, vous parliez de la Madeleine de Proust. Hein, parce que, bien sûr, les saveurs, ça peut nous renvoyer dans le passé, ça nous renvoie en enfance, ça nous renvoie à plein d'expériences. Mais la littérature, elle fait ça aussi. Et quand vous m'avez proposé de choisir un texte sur la gourmandise, j'ai repensé à... Je suis partie dans le temps aussi, j'ai repensé à mes 20 ans, et c'était pas tout à fait hier. Et à 20 ans, on m'a offert un livre qui a été le premier, je pense, succès de Philippe Delerme, qui s'appelle « La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules ». Et depuis, Philippe Delerme, il a un sacré succès et il fait beaucoup de livres où il nous permet, en fait, pas de découvrir des nouvelles choses, mais en fait de mettre les mots sur des choses du quotidien, des petits plaisirs qu'on prend pour acquis et qui finalement ne le sont pas du tout. Et une histoire de première gorgée de bière, c'est exactement ça. On ne fait pas forcément attention qu'elle est si savoureuse, qu'elle est si unique. Et donc, il nous donne ça, il nous donne cette chance de prendre conscience de ces petites choses, de ces petits riens dans la journée. Et celui que j'ai choisi pour aujourd'hui, il s'appelle « Le croissant du trottoir ». On s'est réveillé le premier. Avec une prudence de guetteur indien, on s'est habillé, faufilé de pièce en pièce. On a ouvert et refermé la porte d'entrée avec une méticulosité d'horloger. Voilà, on est dehors, dans le bleu du matin ourlé de rose, un mariage de mauvais goût s'il n'y avait pas le froid pour tout purifier. On souffle un nuage de fumée à chaque expiration. On existe, libre et léger sur le trottoir du petit matin. Tant mieux si la boulangerie est un peu loin. Kerouac, main dans les poches, on a tout devancé. Chaque pas est une fête. On se surprend à marcher sur le bord du trottoir comme on faisait enfant, comme si c'était la marge qui comptait. Le bord des choses. C'est du temps pur, cette maraude que l'on chipe au jour quand tous les autres dorment. Presque tous. Là-bas, il faut bien sûr la lumière chaude de la boulangerie. C'est du néon, en fait, mais l'idée de chaleur lui donne un reflet d'ambre. Il faut ce qu'il faut de buée sur la vitre quand on s'approche, et l'enjouement de ce bonjour que la boulangère réserve au seul premier client, complicité de l'aube. 5 croissants, une baguette moulée pas trop cuite. Le boulanger en maillot de corps, fariné, se montre au fond de la boutique et vous salue, comme on salue les braves à l'heure du combat. On se retrouve dans la rue. On le sent bien. La marche du retour ne sera pas la même. Le trottoir est moins libre, un peu embourgeoisé par cette baguette coincée sous un coude, par ce paquet de croissants tenus de l'autre main. Mais on prend un croissant dans le sac. La pâte est tiède, presque molle. Cette petite gourmandise dans le froid, tout en marchant, c'est comme si le matin d'hiver se faisait croissant de l'intérieur, comme si l'on devenait soi-même four, maison, refuge. On avance plus doucement, tout imprégné de blond pour traverser le bleu, le gris, le rose qui s'éteint. Le jour commence et le meilleur est déjà pris.
Merci pour ce parfum de croissant.
Un vrai talent de lectrice et puis du style chez Philippe Delerme.
C'était goûtu. On va terminer cet échange avec votre BO de la librairie.
Ah oui. Quel exercice vous m'avez demandé. Choisir un morceau qui pourrait ressembler à la librairie.
Ressembler à la librairie.
Je vous remercie, j'ai adoré faire cet exercice, même s'il m'a valu quand même quelques nœuds au cerveau.
On aime les nœuds
au cerveau. Oui. Et donc j'ai choisi Vanessa Paradis avec le morceau « Il y a », pour plein de raisons, pour les paroles, pour ce qu'elle dit. Et j'étais juste embêtée à un moment donné parce que je me suis dit... Est-ce que j'ai vraiment envie de choisir Vanessa Paradis parce que j'aime beaucoup la musique live? Et je me disais, tiens, Vanessa Paradis, c'est marrant, c'est pas une artiste que j'irais facilement voir en concert, c'est pas forcément une performeuse. Et après, en réfléchissant, je me suis dit, en fait, ça a du sens que ce soit Vanessa Paradis. Parce que Vanessa Paradis, quand je l'écoute, elle chante qu'à moi. Elle me murmure, elle me susurre à l'oreille, c'est comme un petit chuchotement. Et donc, c'est assez intime. Et c'est ce qu'on vit à la librairie. Quand les gens viennent nous parler de livres, quand ils viennent nous demander ce qu'ils ont envie de quelque chose qu'ils ont envie de lire, ils nous parlent d'eux, ils nous parlent de choses très intimes et on rentre vraiment dans des confidences assez personnelles. Et je crois que Vanessa Paradis, elle reflète un petit peu ça, cette chose où on a l'impression que cette chanteuse, elle nous chante qu'à nous, elle nous chante à l'oreille. Et puis dans Il y a, il y a aussi cette idée que donc elle dit parfois on regarde les choses telles qu'elles sont. En se demandant pourquoi, parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. Et c'est aussi l'histoire de la librairie. C'est en se disant, il pourrait y avoir une librairie dans cette ville où tous les commerces mouraient. On pense que les gens ne lisent plus et peut-être que ça pourrait être autrement. Et voilà, du coup, c'est l'histoire.
Il y a là la peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures fermées, les serrures comme envolées, les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là là là, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde. silence ou la mer qui lutte contre le temps. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure, comment mêler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas.
C'est l'heure de la poésie sonore, Violaine.
Eh bien oui, alors j'ai trouvé une poésie qui s'appelle Le potager basque. Et figurez-vous que ce poème, il a été écrit par une jeune prodige du début du XXe siècle, au siècle dernier, donc hein, maintenant. Et cette jeune poétesse, elle est morte à 15 ans, en 1928. Et elle a été éditée la même année. Et auparavant, dès l'âge de 11 ans, elle avait déjà reçu plusieurs prix littéraires. Alors autant vous dire qu'on a affaire là à une jeune femme tout à fait exceptionnelle.
Une prodige.
Il y en a eu une beaucoup comète. Plus qu'on croit. Et alors, eh bien, c'est le potager basque. Et c'est Marion qui est à la manœuvre avec la mise en place d'une source fraîche.
Et cette chère auteure s'appelle Sabine Sico.
Tout à fait.
Le rouge du piment, celui de la tomate, luisent joyeusement contre le petit mur. Le bel oignon de cuivre et le melon trop mûr joignent leur blondeur fauve à la gamme écarlate.
Des grains de Malaga qui font songer aux dattes achèvent de confire en haut du petit mur. La cardonnette en fleurs mêle une ombre d'azur aux doigts fins de l'hysope offrant ses aromates.
Mais le crépi de chaux qui par morceaux éclate semble jusqu'à la nuit, le long du petit mur, réfléchir un soleil si blanc, tapant si dur
que les lézards ont dû fermer leurs yeux d'agate.
Alors voilà, on s'achève sur cette émission, sur cette note d'eau de source, très bien réalisée par Marion. Il faut vous dire que ce n'est pas très visuel. Enfin, si, c'est très visuel, mais ce n'est pas très radiophonique. Violaine a fait de la musique avec un fouet, avec un casse-noix, avec une râpe à fromage.
Et un cul de poule.
Et un cul de poule. Voilà.
C'était très goûtu, ici aussi, dans le studio.
Merci à toutes et
merci
à tous.
Merci beaucoup.
Nous nous retrouvons le mois prochain avec un Inkipit.
Avec un in-pipit qui pique.
Et qui pique.
Merci beaucoup pour votre accueil.
Merci beaucoup Marion Lely. Merci. Nous irons bientôt et souvent à la page d'accueil.
On vous attend.
Merci Louis à la technique.
Merci Louis.
À très bientôt.